Chapitre 10. Quand on quitte la petite gare du Vésinet, on trouve devant soi deux routes. L'une à gauche, macadamisée, soigneusement entretenue, mène au village dont on aperçoit à travers les arbres l'église neuve. L'autre à droite, nouvellement tracée et à peine sablée, conduit en plein bois. Le long de cette dernière, qui avant 5 ans sera une rue, on ne rencontre encore que de rares maisons, bâties d'un goût déplorable pour la plupart, s'élevant de loin en loin au milieu d'éclaircies d'arbres, retraites champêtres de négociants parisiens inhabités pendant l'hiver. C'est au point de rencontre de ces deux routes que, sur les 9 heures du soir, Prosper fit arrêter le fiacre où il était monté, place du Palais-Royal, avec M. Verduret. Le cocher avait gagné ses 100 francs. Les chevaux étaient exténués, mais il y avait 5 minutes que M. Verduret et Prosper distinguaient la lueur des lanternes d'une voiture de place comme la leur, trottant à une 50aine de mètres en avant. Descendu le premier du fiacre, M. Verduret tendit au cocher un billet de banque. « Voici, lui dit-il, ce que je t'avais promis. » Tu vas aller à la première auberge que tu trouveras à main droite en entrant dans le village. Et si dans 1 heure nous ne t'avons pas rejoint, tu seras libre de rentrer à Paris. » Le cocher se confondit en remerciements, mais ni Prosper ni son compagnon ne les entendirent. Ils s'étaient élancés au pas de course sur le chemin désert. Le temps, si détestable au départ qu'il avait fait hésiter le cocher, était plus mauvais encore. La pluie tombait à torrents et un vent furieux secouait à les briser les branches noires des arbres qui s'entrechoquaient avec des bruits funèbres. L'obscurité était profonde, épaisse, rendue plus lugubre par le scintillement des réverbères de la gare qu'on découvrait au loin, vacillant et près de s'éteindre sous le souffle de la rafale. Depuis 5 minutes, M. Verduret et M. Prosper couraient au milieu du chemin détrempé et transformé en bourbier, quand tout à coup le caissier s'arrêta. Ben, « nous y sommes, dit-il, mais voici l'habitation de Raoul. » Devant la grille de fer d'une maison isolée, un fiacre, celui que M. Verduret et son compagnon avaient vu devant eux, était arrêté. Renversé sur son siège, enveloppé tant bien que mal dans son manteau, en dépit du vent et de la pluie, le cocher dormait déjà, attendant le retour de la pratique qu'il venait de conduire. M. Verduret s'approcha de la voiture, et tirant le cocher par son manteau, l'appela « Hé, mon brave !» Le cocher s'éveilla en sursaut, rassemblant machinalement ses guides en balbutiant « Voilà, bourgeois, voilà !» Mais quand, à la clarté de ses lanternes, il aperçut ces deux hommes en cet endroit perdu, il s'imagina qu'ils en voulaient peut-être à sa bourse, et qui sait, à sa vie, et il eut une peur affreuse. « Je suis pris !» fit-il en agitant son fouet. « Mais je suis retenu !»« Je le sais bien, imbécile !» dit M. Verduret. « Et je ne veux de toi qu'un renseignement que je te paierai 100 sous. Ne viens-tu pas d'amener ici une dame d'un certain âge ?» Cette question, cette promesse de 5 francs, loin de rassurer le cocher, changèrent sa frayeur en épouvante. « Je vous ai déjà dit de passer votre chemin, » répondit-il. « Filez, sinon j'appelle au secours. » M. Verduret se recula vivement. « Éloignons-nous, » murmura-t-il à l'oreille de Prosper. « Cet animal ferait comme il le dit, et une fois l'éveil donné, pour adieu nos projets. Mais il s'agit d'entrer autrement que par la grille. » Tous deux, alors, longèrent le mur qui entoure le jardin, cherchant un endroit propice à l'escalade. Cet endroit n'était pas facile à retrouver dans l'obscurité, le mur ayant bien 10 ou 12 pieds d'élévation. Heureusement, M. Verduret est leste. Le point le plus faible reconnu et choisi, il se recula, pris du champ, et d'un bond prodigieux de la part d'un homme si gros, il réussit à s'accrocher à l'angle des pierres du sommet. Cédant ensuite des pieds, à la force du poignet, il s'enleva et fut bientôt à cheval sur le chaperon du mur. C'était au tour de Prosper de passer, mais bien que plus jeune que son compagnon, il n'avait pas ses jarrets. Et M. Verduret fut obligé de l'aider non seulement à se hisser, mais encore à redescendre de l'autre côté. Une fois dans le jardin, M. Verduret s'occupa d'étudier le terrain. La maison qu'habitait M. de Lagorre est construite au milieu d'un jardin très vaste. Elle est étroite et relativement haute, ayant deux étages et encore des greniers au-dessus. Une seule fenêtre au second étage était éclairée. « Vous qui connaissez la maison pour y être venu 20 fois ?» demanda M. Verduret. « Sauriez-vous me dire quelle est la pièce où nous voyons de la lumière ?»« C'est la chambre à coucher de Raoul. »« Très bien, alors passons à la distribution. Qu'y a-t-il au rez-de-chaussée ?» La cuisine, l'office, une salle de billard et la salle à manger. Et au premier, deux salons séparés par une toison volante et un cabinet de travail. Et où se tiennent les domestiques? Oh, Raoul n'en a pas à cette heure. Il est servi par des gens du Vésinet, le mari et la femme, qui viennent le matin et se retirent le soir après dîner. M. Verduret se frotta joyeusement les mains. « Alors, tout va bien, » fit-il. « Oh, ce sera le diable si nous ne parvenons pas à surprendre quelque chose de ce que disent Raoul et la personne venue de Paris à cette heure et par ce temps. Entrons. » Prosper eut un geste de protestation. La proposition lui semblait vive. « Mais pensez-vous, monsieur ?»« Oh, ça !» répondit le gros homme d'un ton goguenard. « Mais pourquoi donc croyez-vous que nous sommes venus ici? Espériez-vous une partie de plaisir? Mais nous pouvons être découverts. Et après? Au moindre bruit révélant notre présence, vous vous avancez hardiment comme un ami venu pour visiter son ami et qui a trouvé toutes les portes ouvertes. » Le malheur est que la porte, une porte de chêne plein, était fermée. Et que M. Verduret la secoua vainement. « Quelle imprudence !» murmurait-il d'un ton de dépit. « Ah, on devrait toujours avoir ses instruments sur soi. Une serrure de rien qu'on ouvrirait avec un clou, et pas un crochet, pas un morceau de fil de fer. » Reconnaissant l'inutilité de ses efforts, il quitta la porte pour courir successivement à toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Hélas, toutes les persiennes étaient tirées et solidement assujetties. M. Verduret semblait exaspéré. Il tournait autour de la maison comme un renard autour d'un poulailler, furieux, cherchant une issue et n'en trouvant pas. En désespoir de cause, il revint se placer à l'endroit du jardin d'où on découvrait le mieux la fenêtre éclairée. « Mais si seulement on pouvait voir !» s'écria-t-il. « Dire que là, là !» et il montrait le poing à la fenêtre, « est le mot de l'énigme, et que nous en sommes séparés que par les 30 ou 40 pieds de ces deux étages. » Jamais encore Prosper n'avait été si fort surpris par les allures de son étrange compagnon. Il semblait comme chez lui, dans ce jardin, où il venait de s'introduire par escalade. Il allait et venait sans précaution. On eût dit qu'habitué à de pareilles expéditions, il trouvait cette situation toute naturelle, parlant de crocheter la porte d'une maison habitée comme un bourgeois d'ouvrir sa tabatière, insensible d'ailleurs au mauvais temps, au vent, à la pluie qui tombait toujours, à la boue où il pataugeait. Il s'était rapproché de la maison et il calculait. Il prenait des mesures, comme s'il eût eu l'espérance folle de se hisser le long de cette muraille lisse. « Mais je veux voir, » répétait-il, « et je verrai. » Tout à coup, un souvenir du temps passé traversa l'esprit de Prosper. « Mais il y a une échelle ici, » s'écria-t-il. Et vous ne me le dites pas, mais où est-elle? Au fond du jardin, sous les arbres. Ils y coururent et non sans peine la trouvèrent couchée le long du mur. L'enlever, la porter près de la maison, fut l'affaire d'un instant. Mais quand ils l'eurent dressée, ils reconnurent que, même en la tenant bien plus verticalement que ne le voulait la prudence, il s'en fallait de si bons pieds qu'elle atteignit la fenêtre éclairée. Pouf, nous n'arriverons pas, dit Prosper découragé. Mais nous arriverons, s'écria M. Verduret triomphant. Aussitôt, se plaçant à 1 mètre de la maison et lui faisant face, il saisit l'échelle, la souleva avec précaution et en appuya le dernier échelon sur ses épaules, soutenant les montants aussi haut que possible. L'obstacle était vaincu. « Maintenant, dit-il à son compagnon, montez !» Pour Prosper, la situation était poignante, extrême. Il n'hésita pas. L'enthousiasme de la difficulté vaincue, l'espoir du triomphe lui donnait une force et une agilité qui ne se connaissaient pas. Il s'enleva sans secousse jusqu'aux échelons inférieurs et se lança sur l'échelle qui tremblait et vacillait sous son poids. Mais sa tête avait à peine dépassé l'appui de la fenêtre. Il poussa un grand cri, un cri terrible, qui se perdit au milieu des mugissements de la tempête, et qui se laissa glisser, ou plutôt tomber, sur la terre détrempée en criant « Misérable ! Misérable !» Avec une promptitude et une vigueur extraordinaires, M. Verduret reposa sur le sol la lourde échelle et se précipita vers Prosper, craignant qu'il ne fût dangereusement blessé. « Qu'avez-vous ? » demandait-il. « Qu'y a-t-il ? » Mais déjà Prosper était debout. Si la chute avait été rude, il était dans une de ces crises où l'âme souveraine domine si absolument la bête que le corps est insensible à la douleur. « Mais il y a, répondit-il d'une voix rauque et brève, que c'est Madeleine, entendez-vous bien, Madeleine, qui est là, dans cette chambre, seule avec Raoul. » M. Verduret était confondu. Lui, l'homme infaillible, ses déductions l'avaient égaré. Il savait bien que c'était une femme qui était chez M. de Lagorre. Mais d'après ses conjectures, d'après le billet que Gypsy lui avait fait tenir à l'estaminet, il croyait que cette femme était Madame Fauvel. « Ne vous seriez-vous pas trompé ? » demanda-t-il. « Oh non, monsieur, non. Je ne saurais, moi, prendre une autre femme pour Madeleine. Ah, vous qui l'avez entendu hier, répondez-moi. Devais-je m'attendre à cette trahison infâme ? Elle vous aime, me disiez-vous, elle vous aime. » M. Verduret ne répondit pas. Étourdi d'abord de son erreur, il en recherchait les causes, et déjà son esprit pénétrant commençait à les discerner. « Et le voilà donc, poursuivait Prosper, ce secret surpris par Nina. Madeleine, cette noble et pure Madeleine, en qui j'avais foi comme en ma mère, est la maîtresse de ce faussaire qui a volé jusqu'au nom qu'il porte. Et moi, imbécile d'honnête homme, j'avais fait de ce misérable mon meilleur ami. C'est à lui que je disais mes angoisses et mes espérances. Et il était son amant. Et moi, j'étais sans doute le divertissement de leur rendez-vous. Il riait de mon amour ridicule, de ma stupide confiance. » Il s'interrompit, il succombait à la violence de ses émotions. Le déchirement de l'amour-propre ajoute une souffrance aiguë aux plus atroces douleurs. Cette certitude d'avoir été si indignement trahi et joué le transportait jusqu'au délire. « Mais c'est assez d'humiliation comme cela, » reprit-il avec un accent de rage inouïe. « Oh, il ne sera pas dit que lâchement j'aurais courbé la tête sous les plus sanglants affronts. » Il allait s'élancer vers la maison, mais M. Verduret, qui autant que le lui permettait l'obscurité surveillait ses mouvements, l'arrêta. « Que voulez-vous faire ? Me venger? Oh, je saurais bien briser la porte maintenant que je ne redoute plus ni le scandale ni le bruit et que je n'ai plus rien à perdre. Je ne cherche plus à me glisser dans la maison furtivement comme un voleur. J'y veux entrer en maître, en homme qui, mortellement offensé, vient demander raison de l'offense. Vous ne ferez pas cela, Prosper. Oh, qui donc m'en empêchera? Moi. Vous? Oh non, ne l'espérez pas. Paraître, les confondre, les tuer et mourir après, voilà ce que je veux, voilà ce que je vais faire. Si M. Verduret n'avait pas eu des poignées de fer, Prosper lui échappait. Il y eut entre eux une courte lutte, mais M. Verduret l'emporta. Mais si vous faites du bruit, dit-il, si vous donnez l'éveil, c'en est fait de nos espérances. Mais je n'ai plus d'espérance. Raoul, mis sur ses gardes, vous échappe et vous restez à jamais déshonoré. Pauvre, que m'importe. Mais il m'importe, à moi, malheureux. À moi qui ai juré de faire éclater votre innocence. À votre âge, on retrouve toujours une maîtresse, on ne retrouve jamais son honneur perdu. Pour la passion vraie, il n'est pas de circonstances extérieures. M. Verduret et Prosper étaient là, sous la pluie, mouillés jusqu'aux os, les pieds dans la boue, et ils discutaient. « Je veux me venger, » répétait Prosper avec cette persistance idiote de l'idée fixe. « Je veux me venger. » Ben, vengez-vous, soit, s'écria M. Verduret que la colère gagnait. Mais comme un homme, alors, et non pas comme un enfant. Monsieur, oui, mais comme un enfant. Que ferez-vous une fois dans la maison? Avez-vous des armes? Non. Vous vous précipitez donc sur Raoul, vous lui lutterez corps à corps avec lui, et pendant ce temps, Madeleine regagnera sa voiture, et après, serez-vous seulement le plus fort? Accablé par le sentiment de son impuissance évidente, Prosper se taisait. « Mais à quoi bon des armes ?» poursuivait M. Verduret. « Il faut être insensé pour tuer un homme qu'on peut envoyer au bagne. »« Mais que faire alors ?»« Attendre. La vengeance est un fruit délicieux qu'il faut laisser mûrir. » Prosper était ébranlé. M. Verduret le comprit. Et il lança son dernier argument, le plus sûr, celui qu'il tenait en réserve. D'ailleurs, ajouta-t-il, qui nous assure que Mademoiselle Madeleine est ici pour son compte? Ne sommes-nous pas arrivés à cette conviction qu'elle se sacrifie? La volonté supérieure qui lui a imposé votre bannissement peut fort bien l'avoir obligée à cette démarche de ce soir. Toujours la voix qui parlera dans le sens de nos plus chers désirs sera écoutée. Cette supposition, si peu probable en apparence, frappa Prosper. Ben, en effet, murmura-t-il, qui sait? Je le saurais bien, moi, fit Verduret, si je pouvais voir. Prosper resta un moment sans répondre. Me promettez-vous, monsieur, prononça-t-il enfin, de me dire votre pensée entière, la vérité, si pénible qu'elle pût être pour moi. Mais je vous le jure sur ma parole d'honneur. Aussitôt, avec une force dont il ne se serait pas cru capable quelques instants auparavant, Prosper enleva l'échelle et en plaça le dernier échelon sur ses épaules, ainsi que son compagnon l'avait fait. « Montez !» dit-il alors. En une seconde, si légèrement, si adroitement qu'il n'imprima pas à l'échelle une seule secousse, M. Verduret fut à hauteur de la fenêtre. Prosper n'avait que trop bien vu. C'était Madeleine qui était là à cette heure, seule chez Raoul de la Gore. Elle avait conservé, M. Verduret le remarqua fort bien, ses vêtements du dehors, son chapeau et son par-dessus de drap. Debout, au milieu de la chambre, elle parlait avec une grande animation. Son attitude, ses gestes, sa physionomie trahissaient une vive indignation difficilement contenue et un certain mépris mal déguisé. Raoul, lui, était assis sur une chaise basse près de la cheminée, tisonnant le feu avec les pincettes. Par moments, il levait les bras en haussant les épaules, ce qui est le mouvement d'un homme résigné à tout entendre et qui, à tout, répond « Je n'y puis rien !» Certes, M. Verduret aurait donné la jolie bague qu'il porte à son maître doigt pour entendre quelque chose, ne fût-ce que 10 mots de la conversation. Mais avec le vent qu'il faisait, il n'arrivait pas à son oreille le plus vague murmure, et il n'osait approcher son oreille des vitres dans la crainte d'être aperçu. Évidemment, pensait-il, c'est une dispute, mais il est clair que ce n'est pas une dispute d'amoureux. Madeleine, cependant, continuait, et c'est en étudiant la figure de la gore qu'il distinguait fort bien, éclairée qu'elle était par la lampe placée sur la cheminée, qu'il espérait trouver le sens de cette scène. Par moments, il tressaillait en dépit de son indifférence apparente, ou bien il frappait plus fort dans le foyer avec ses pincettes, sans doute quelques reproches plus directs l'atteignaient. Désespérée, Madeleine en était venue à la prière. Elle joignait les mains, elle s'inclinait, elle était presque à genoux. Il détourna la tête, il ne répondait d'ailleurs que par monosyllabes. 2 ou 3 fois, Madeleine parut vouloir se retirer, mais toujours elle revenait, comme si, demandant une grâce, elle n'eût pu se résigner à sortir sans l'avoir obtenue. À la dernière fois, elle trouva sans doute quelques raisons décisives, car Raoul, tout à coup, se leva, ouvrit un petit meuble placé près de la cheminée et en sortit une liasse de papier qu'il lui tendit. « Ah, oh, ça, pensait M. Verduret, mais quel diable jeu joue-t-il? Est-ce une correspondance compromettante qu'est venue réclamer cette jeune demoiselle ?» Madeleine, qui avait pris la liasse, ne paraissait pas encore satisfaite. Elle parlait et insistait de nouveau, comme pour se faire remettre autre chose. Raoul refusant, elle jeta la liasse sur la table. Ces papiers intriguaient singulièrement M. Verduret. Ils s'étaient éparpillés sur la table et il les apercevait assez bien. Il y en avait de plusieurs couleurs, de gris, de vert, de rouge. « Mais je ne m'abuse pas, pensait M. Verduret. Je ne suis pas aveugle. Ce sont là des reconnaissants du monde piété. » Parmi toutes les feuilles étalées sur la table, Madeleine cherchait. Elle en prit 3, qu'elle plia et mit dans sa poche, et repoussa les autres avec un dédain bien manifeste. Elle était cette fois résolue à se retirer, car, sur un mot qu'elle dit, Raoul prit la lampe pour l'éclairer. M. Verduret n'avait plus rien à voir. Tout en redescendant avec 1000 précautions, il murmurait « Des reconnaissances du monde piété !» Mais quel mystère d'infamie cache donc cette affaire? Avant tout, il s'agissait de dissimuler l'échelle. Raoul, en reconduisant Madeleine, pouvait avoir l'idée de faire quelques pas dans le jardin, et malgré l'obscurité, la découvrir, cette échelle qui, ainsi dressée, se détachait en noir sur la muraille. En toute hâte, M. Verduret et Prosper la couchèrent à terre, sans souci des arbustes qu'ils brisaient, et allèrent se poster, où l'ombre était la plus épaisse, dans un endroit où ils surveillaient à la fois et la porte de la maison et la grille. Presque au même moment, Raoul et Madeleine parurent sur le perron. Raoul avait posé sa lampe sur la première marche, il offrit la main à la jeune fille, mais elle le repoussa d'un geste empreint d'une insultante hauteur qui, vu par Prosper, lui versa du baume dans le sang. Ce mépris ne parut ni émouvoir ni surprendre Raoul. Il répondit simplement par ce geste ironique qui signifie oh, « comme vous voudrez ». Il alla jusqu'à la grille, l'ouvrit et la referma lui-même, puis rentra bien vite pendant que la voiture de Madeleine s'éloignait au grand trot. « Maintenant, monsieur, interrogea Prosper, que le doute torturait, souvenez-vous que vous m'avez promis la vérité quelle qu'elle soit. Pour parler, ne craignez rien, je suis fort. Mais c'est contre la joie alors qu'il vous ferait être fort, mon ami. Avant un mois, vous regretterez amèrement vos flétrissants soupçons de ce soir. Vous rougirez en songeant que vous avez pu croire Madeleine la maîtresse d'un lagor. Mais cependant, monsieur, les apparences, c'est des apparences qu'il faut se défier. Pardieu, un soupçon faux ou juste est toujours basé sur quelque chose. Mais nous ne pouvons pas nous éterniser ici. Allez, votre gredin de Raoul a refermé la grille, je l'ai vu. Il faut nous retirer par le chemin de tout à l'heure. Mais l'échelle, oh, qu'elle reste où elle est. Comme nous ne saurions effacer nos traces, le tout sera mis sur le compte des voleurs. De nouveau, ils franchirent le mur, et ils n'avaient pas fait 50 pas sur la route qu'ils entendirent le bruit d'une grille qui se refermait. Ils distinguèrent des pas, et bientôt un homme les dépassa qui gagnait la station. Quand il fut à quelque distance, « C'est Raoul, dit M. Verduret, notre domestique de tantôt. Joseph nous apprendra qu'il est allé rendre compte à Clamoran de la Seine. Oh, si seulement ils avaient l'amabilité de parler français !» Il marcha un moment sans mot dire, cherchant à renouer le fil rompu de ses déductions. « Mais comment diable, reprit-il tout à coup, ce lagor qui ne doit chercher que le monde, le plaisir et le jeu, est-il venu choisir une maison isolée au Vésinet ?»« Oh, sans doute, répondit Prosper, parce que la maison de campagne de M. Fauvel est à un quart d'heure d'ici, au bord de la Seine. » C'est une explication, cela, pour l'été, mais l'hiver. » Oh, l'hiver, où il a une chambre à l'hôtel du Louvre, et en toute saison, il dispose d'un appartement à Paris. » Tout cela n'éclairait pas M. Verduret. Il se mit à marcher plus vite. Pourvu, murmura-t-il, que notre cocher ne soit pas parti. Nous ne pouvons songer à prendre le train qui va passer. Nous rencontrerions Raoul à la station. Bien qu'il se fût écoulé plus d'une heure depuis que Prosper et son compagnon étaient descendus à l'embranchement des deux routes, le fiacre qui les avait amenés stationnait encore devant l'auberge indiquée par M. Verduret. Le cocher n'avait pas pu résister au désir d'écorner le billet de 100 francs gagné par ses chevaux. Il s'était fait servir à dîner, le vin était de son goût, alors il restait. La vue de ces bourgeois l'enchanta. Il ne retournerait donc pas vide à Paris. Seulement l'état dans lequel il les revoyait le surprit étrangement. « Oh, comme vous voilà fait !» s'écria-t-il. Prosper répondit simplement qu'allant visiter un de leurs amis, il s'était égaré et était tombé dans une fondrière, comme s'il y avait des fondrières dans le bois du Vésinet. « Ah, c'est donc cela !» fit le cocher. En apparence, il se contentait de l'explication, mais au fond, il n'était pas fort éloigné de croire que ces deux pratiques venaient de tenter de commettre quelque mauvais coup. Cette dernière opinion dut être celle de quelques personnes présentes, car il y eut des regards singuliers d'échanger. Mais M. Verduret coupa court à tous les commentaires. « Partons-nous ? » demanda-t-il de sa voix la plus impérieuse. « Voilà, bourgeois, répondit le cocher. Le temps de régler, je suis à vous. Montez toujours. » La route au retour fut mortellement longue et silencieuse. Prosper avait d'abord essayé de faire causer son étrange compagnon, mais comme il ne répondait que par monosyllabes, il mit son amour-propre à se taire. Il était irrité de l'empire de plus en plus absolu que cet homme exerçait sur lui. Les circonstances physiques augmentaient encore son ennui. Il était transi, glacé jusqu'à la moelle des os, et se sentait gagné par un irrésistible engourdissement qui enveloppait sa pensée d'un brouillard opaque. C'est que, s'il n'est pas de limite à la puissance de l'imagination, les forces physiques ont des bornes. Après l'effort, vient la réaction. Enfoncé dans un coin, les pieds sur la banquette de devant, M. Verdurès semblait dormir et cependant jamais il n'avait été plus éveillé. Il était aussi mécontent que possible. Cette expédition qui devait, dans sa pensée, fixer ses hésitations, aboutissait à une complication. Tous les fils qu'il avait cru tenir se brisaient dans sa main. Certes, pour lui, les faits restaient les mêmes, mais les circonstances changeaient. Il ne découvrait plus quel mobile commun, quelle complicité morale ou matérielle, quelles influences poussaient à agir dans le même sens les quatre acteurs de son drame, Madame Fauvel et Madeleine, Raoul et Cabran. Et il cherchait dans son esprit fertile, encyclopédie de ruses, quelques combinaisons qui pût faire jaillir la lumière. Minuit sonnait quand le fiacre arriva devant l'hôtel du Grand Archange, et alors seulement M. Verduret, arraché à ses méditations, s'aperçut qu'il n'avait pas dîné. Par bonheur, Madame Alexandre l'attendait, et en un clin d'œil, un souper fut improvisé. C'était plus que des prévenances, plus que du respect qu'elle avait pour son hôte. Prosper le remarqua fort bien. Elle considérait son compagnon avec une sorte d'admiration ébahie. Ayant fini de manger, M. Verduret se leva. « Vous ne me verrez pas demain de la journée, » dit-il à Prosper, « mais le soir, vers 7 heures, je serai ici. Peut-être aurais-je eu la chance de trouver ce que je cherche au bal de messieurs Jardidier. » Prosper faillit tomber de son haut. Quoi ? Monsieur Verduret songeait à se présenter à une fête donnée par des financiers les plus opulents de la capitale ? C'était donc pour cela qu'il l'avait envoyé chez le costumier. « Vous êtes donc invité ? » demanda-t-il. Un fin sourire passa dans les yeux si expressifs de M. Verduret. « Non, pas encore, » répondit-il, « mais je le serai. » Oh, contradiction de l'esprit humain ! Les plus poignantes préoccupations tenaillaient à la pensée de Prosper, et maintenant, regardant tristement sa chambre, songeant au projet de M. Verduret, il murmurait. « Ah, il est heureux, lui. Demain, il verra Madeleine, plus belle que jamais, avec son costume de fille d'honneur. » C'est vers le milieu de la rue Saint-Salvador que s'élèvent les hôtels jumeaux de messieurs Jean Didier, deux financiers célèbres qui, dépouillés du prestige de leurs millions, seraient encore des hommes remarquables. Que l'on peut dire autant de tous ? Ces deux hôtels qui, lors de leur achèvement, il y a quelques années, firent pousser à la presse des cris d'admiration, sont absolument distincts l'un de l'autre, mais disposés habilement, de façon à n'en faire qu'un au besoin. Quand messieurs Jean Didier donnent une fête, ils font enlever les épaisses cloisons mobiles, et leurs salons sont alors des plus beaux qu'il y ait à Paris. Magnificence princière, merveilleuse entente du confort, hospitalité pleine de prévenance, tout contribue à rendre ces fêtes les plus courues et les plus recherchées qu'il soit. C'est dire que le samedi, la rue Saint-Lazare étaient encombrées de voitures prenant la file en attendant leur tour. À 10 heures, on dansait déjà dans 2 salons. C'était un bal travesti. Presque tous les costumes étaient d'une grande richesse, beaucoup du meilleur goût, quelques-uns vraiment originaux. Parmi ces derniers, on remarquait surtout un paillasse, oh, mais un vrai, ayant l'admirable physionomie de l'emploi, œil insolent, bouche gourmande et gouailleuse, pommettes allumées et une barbe si rouge qu'elle semblait flamber au feu des lustres. Le costume était exact, comme la tradition. Les bottes étaient à revers, le chapeau était suffisamment bosselé, la dentelle du jabot s'effiloquait. Il tenait de la main gauche la rampe d'une sorte de bannière de toile sur laquelle 6 ou 8 tableaux étaient figurés, grossièrement peints comme les tableaux des baraques foraines. De la main droite, il agitait une petite badine dont il frappait sa toile par moments à la façon des saltimbanques débitant leur boniment. On entourait ce paillasse, on attendait de lui quelques colibets spirituels, mais lui, obstinément, se tenait près de la porte d'entrée. Ce n'est guère que sur les 10 heures et demie qu'il quitta son poste. Monsieur et Madame Fauvel, suivis de leur nièce Madeleine, venaient d'entrer. Un groupe compact se forma presque aussitôt près de la porte. Depuis 10 jours, l'affaire du banquier de la rue de Provence avait été l'aliment le plus vif de toutes les conversations, et amis et ennemis étaient bien aises de l'approcher. Les uns pour l'assurer de leur sympathie, les autres pour lui offrir ces équivoques compliments de condoléance qui sont ce qu'il y a au monde de plus blessant et de plus irritant. Enrôlé dans le bataillon des hommes sérieux, M. Fauvel ne s'était pas travesti. Il avait simplement jeté sur ses épaules un court manteau de soie. À son bras, Mme Fauvel, née Valentine de la Verberie, s'inclinait et saluait avec la plus gracieuse affabilité. Oh, sa beauté avait été remarquable autrefois, et ce soir, la magie du costume y prétend, l'illusion des lumières aidant, elle avait retrouvé la fraîcheur et l'éclat de sa jeunesse. Jamais on ne lui eût donné les 48 ans qu'elle venait d'avoir. Elle avait choisi une toilette de cour des dernières années du règne de Louis XIV, magnifique et sévère, toute de satin broché de velours, sans un diamant, sans un bijou. Et elle le portait avec une noblesse aisée, ayant grand air sous sa poudre, comme il convient, disaient quelques hommes charitables, à une Laverberie qui a eu le tort d'épouser un homme d'argent. Mais c'est à Madeleine qu'allaient tous les regards. Elle semblait vraiment une reine sous ce costume de fille d'honneur, inventé comme un plaisir pour faire valoir les richesses de sa taille. Au tiède parfum des salons, sous le rayonnement des lustres, sa beauté s'épanouissait. Jamais ses cheveux n'avaient été si noirs, jamais son teint n'avait paru si blanc, jamais ses grands yeux n'avaient eu ces lueurs. Une fois entrée, Madeleine prit le bras de sa tante, pendant que M. Fauvel se perdait dans la foule, cherchant à gagner un des salons de jeu, refuge des hommes graves. Le bal était alors à l'apogée de ses splendeurs. 2 orchestres, sous la baguette de Strauss et d'un de ses lieutenants, remplissaient les 2 hôtels de leurs fanfares. La foule bigarrée se mêlait et tourbillonnait, et c'était un merveilleux fouillis d'étoffes d'or et de satin, de velours et de dentelle. Les diamants étincelaient sur les têtes et sur les poitrines, les joues les plus pâles rougissaient, les yeux brillaient et les épaules des femmes resplendissaient plus blanches comme les neiges au premier rayon du soleil d'avril. Oublié, lui et sa bannière, le paillasse s'était réfugié dans l'embrasure d'une fenêtre et il s'y tenait debout, le coude appuyé à la poignée ciselée de l'espagnolette. Il semblait quelque peu ému de tant de magnificence, et quelque chose de ses enivrements lui montait à la tête. Pourtant, il ne perdait pas de vue un couple qui dansait à une faible distance de lui. C'était Madeleine, s'appuyant sur le bras d'un doge plus doré qu'un sequin. Et ce doge n'était autre que le marquis de Clamoran. Il paraissait radieux, rajeuni, ses empressements avaient des apparences de triomphe. À un repos de quadrille, il se penchait vers sa danseuse et lui parlait avec une admiration contenue. Elle semblait l'écouter, sinon avec plaisir, du moins sans colère, hochant la tête par moments et d'autres fois souriant. « Évidemment, murmurait le paillasse, ce noble gredin fait sa cour à la nièce du banquier. Donc j'avais raison hier. Mais d'un autre côté, comment mademoiselle Madeleine se résigne-t-elle à entendre d'un air si gracieux ses fadeurs et ses déclarations ? Heureusement, Prosper n'est pas ici. » Il s'interrompit. Devant lui s'arrêtait un homme âgé déjà, portant avec une distinction suprême le manteau vénitien. « Vous savez, monsieur Verduret, dit-il, moitié sérieux, moitié railleur, ce que vous m'avez promis. » Le paillasse s'inclina respectueusement, profondément, mais sans apparence de bassesse ni d'humilité. « Je me souviens, répondit-il. Pas d'imprudence, surtout. Oh, monsieur le comte, peut-être tranquille, il a ma parole. C'est bien, monsieur, je sais ce qu'elle vaut. » Le comte s'éloigna, mais pendant ce court colloque, le quadrille finissait et le paillasse n'aperçut plus ni monsieur de Clamoran ni Madeleine. Oh, je les retrouverai auprès de madame Fauvel, pensa-t-il. Et aussitôt, il se lança dans la foule à la recherche de la femme du banquier. Incommodée par la chaleur qui devenait suffocante, madame Fauvel était venue chercher un peu de fraîcheur dans la grande galerie des hôtels Jean Didier, transformée pour la nuit, grâce à ce talisman qui s'appelle l'or, en un féerique jardin plein d'orangers, de lauriers roses en fleurs et de lilas blancs dont les grappes délicates s'inclinaient déjà. Le paillasse l'aperçut, assise près d'un bosquet, non loin de la porte d'un des salons de jeu. À droite était Madeleine. À sa gauche se tenait Raoul de Lagor, costumé en mignon de Henri III. « Il faut avouer, pensait le paillasse, tout en cherchant un poste d'observation, qu'on n'est pas plus beau que ce jeune bandit. » Madeleine, maintenant, était triste. Elle avait arraché un camélia à l'arbuste voisin et elle l'effeuillait machinalement, le regard perdu dans le vide. Raoul et madame Fauvel, penchés l'un vers l'autre, causaient. Leur visage paraissait tranquille, mais les gestes de l'un, les tressaillements de l'autre, trahissaient clairement des préoccupations supérieures et une conversation des plus graves. Dans le salon de jeu, on apercevait le doge, M. de Clamoran, placé de façon à voir Mme Fauvel et Madeleine sans être vu. Ben, « c'est la scène d'hier qui se continue, » pensa le paillasse. « Oh, si je pouvais surprendre quelques mots. Si j'étais derrière ces camélias, je suis sûr que j'entendrais. » Il manœuvra aussitôt en conséquence, mais s'approcher n'était pas aisé. Il lui fallait tourner des groupes. Quand il arriva à la place désirée, Madeleine se levait et prenait le bras d'un persan constellé de pierreries. Au même moment, Raoul se leva et passa dans le salon de jeu où il dit quelques mots à l'oreille de Clamoran. « Et voilà !» se dit le paillasse. « Ces deux misérables tiennent ces deux pauvres femmes. » Et c'est en vain qu'elles se débattent entre leurs serres. Mais comment les tiennent-ils ? Il réfléchissait quand tout à coup se fit un grand mouvement dans la galerie. C'est qu'on annonçait un menuet merveilleux dans le grand salon. Puis la comtesse de Commarin venait d'arriver en aurore. Puis encore, il fallait aller admirer les émeraudes de la princesse Korasov, les plus belles de l'univers. En un instant, la galerie fut presque vide. Il n'y restait plus que quelques pauvres isolés, des maris grincheux dont les femmes dansaient, et quelques jeunes hommes timides et gênés dans leurs costumes. Le paillasse pensa que l'heure favorable à ses desseins était venue. Brusquement, il quitta sa place, brandissant sa bannière, frappant avec sa badine sur la toile, toussant avec affectation en homme qui va parler. Il avait traversé la galerie et s'était placé entre le fauteuil occupé par Madame Fauvel et la porte du salon. Aussitôt accoururent autour de lui, faisant cercle, tous les invités restés dans la galerie. Déjà, il s'était posé dans la fière attitude de la tradition, le chapeau prodigieusement incliné sur l'oreille, le corps penché du même côté que le chapeau. C'est avec une incroyable volubilité et du ton le plus emphatiquement bouffon qu'il commença. Mesdames et messieurs, ce matin même, je sollicitais une autorisation de l'autorité, il saluait, de cette ville. Et pourquoi ? Afin, messieurs, d'avoir l'honneur de vous soumettre un spectacle qui a déjà conquis les suffrages des 5 parties du monde et de plusieurs autres académies. C'est dans l'intérieur de cette loge, mesdames, que va commencer la représentation d'un drame inouï, joué pour la première fois à Pékin et traduit par nos plus fameux auteurs. Déjà, messieurs, on peut prendre ses places. Les quinquets sont allumés et les acteurs s'habillent. Il s'interrompit et, avec une perfection humiliante pour les instruments de cuivre et les grosses caisses, il imita les ritournelles déchirantes des musiques des saltimbanques. « Mais, mesdames et messieurs, reprit-il, vous allez me dire, « Oh, si c'est dans la loge que l'on joue la pièce, que fais-tu ici ?»« Ce que j'y fais, messieurs, j'y suis pour vous donner un avant-goût des agitations, sensations, émotions, palpitations et autres distractions que vous pouvez vous payer moyennant le faible déboursé de 50 centimes, 10 sous. Vous voyez ce superbe tableau ? Eh bien, il représente les 8 scènes les plus terribles du drame. Ah, je le vois, vous frémissez. Cependant, ce n'est rien. Ce magnifique tableau ne nous donne pas plus l'idée exacte de la représentation qu'une goutte d'eau ne donne l'idée de la mer ou une étincelle l'idée du soleil. Mon tableau, messieurs, c'est la bagatelle de la porte, comme qui dirait la fumée qu'on aspire aux soupiraux des restaurants. « Est-ce que vous connaissez ce paillasse ?» demandait un énorme turc à un mélancolique polichinelle. « Non, mais il imite supérieurement la trompette. »« Oh, supérieurement, mais où veut-il en venir ?» Ce qu'il voulait, le paillasse, c'était avant tout et surtout attirer l'attention de Madame Fauvel, qui, depuis que Raoul et Madeleine s'étaient éloignés, s'était abandonné à une rêverie profonde et sans doute douloureuse. Il réussit. Les éclats de cette voix stridente ramenèrent la femme du banquier au sentiment de la réalité. Elle tressaillit et regarda vivement autour d'elle, comme si l'on eût brusquement éveillé. Puis elle se pencha du côté du paillasse. Lui, cependant, continuait. « Donc, messieurs, nous sommes en Chine. Le premier des 8 tableaux de ma toile, ici en haut à gauche, il montrait du bout de sa badienne, vous représente le célèbre mandarin Li Fo au sein de sa famille. Cette jolie jeune dame qui s'appuie sur son épaule n'est autre que son épouse. Et les enfants qui se roulent sur le tapis sont le fruit de la plus fortunée des unions. » Ne respirez-vous pas, messieurs, le parfum de satisfaction et d'honnêteté qui s'exhale de cette superbe peinture? C'est que Madame Liffaut est la plus vertueuse des femmes, adorant son mari et idolâtrant ses enfants. Étant vertueuse, elle est heureuse, car, ainsi que le dit si bien Confucius, la vertu a bien plus d'agrément que le vice. Insensiblement, Madame Fauvel s'était rapprochée, même elle avait quitté son fauteuil pour venir en occuper un autre tout près du paillasse. « Voyez-vous, demandait à son voisin le mélancolique Polichinelle, ce qu'il dit être sur sa toile ? Oh, ma foi, non, et vous ? Le fait est que la toile, furieusement enluminée, ne représentait guère plus cela que n'importe quelle autre chose. Le paillasse, cependant, après avoir imité un roulement de tambour, reprenait en accélérant encore son débit. « Tableau numéro 2 ! Cette vieille dame assise devant une armoire à glace et qui, de désespoir, s'arrache les cheveux, particulièrement les blancs. La reconnaissez-vous ? Non. Eh bien, c'est cependant la belle mandarine du premier tableau. Oh, je vois des pleurs dans vos yeux, mesdames et messieurs. Ah, pleurez, car si elle n'est plus belle, elle n'est plus vertueuse, et son bonheur a disparu comme sa vertu. Pah ! C'est une lamentable histoire. Oh, un jour, on ne sait pas où, dans une rue de Pékin, elle a rencontré un jeune bandit, beau comme un ange. Et elle l'aime, la malheureuse, elle l'aime. C'est de la voix la plus tragique, avec une physionomie à l'avenant, que le paillasse prononça ces derniers mots. Pendant cette tirade, il avait opéré une demi-conversion. Il se trouvait maintenant presque en face de la femme du banquier et ne perdait pas un des mouvements de son visage. « Vous êtes surpris, messieurs, poursuivait-il. Je ne le suis pas, moi. Le grand Bilboquet, mon maître, nous l'a révélé. Le cœur n'a pas d'âge, et c'est sur les ruines que fleurissent les plus vigoureuses ravenelles. La malheureuse. Elle a 50 ans et elle aime un adolescent. De là cette scène navrante et épilatoire, qui est un grand enseignement. « Vrai !» murmurait un cuisinier de Saint-Imblanc, qui avait passé la soirée à débiter sans succès quantité de menus. « Oh, vrai, je le supposais plus amusant. »« Mais c'est dans l'intérieur de la loge, » disait le paillasse, qu'il faut voir les surprenants effets des fautes de la mandarine. Par moments, une lueur de raison éclaire son cerveau malade, et les manifestations de ses angoisses attendrissent les plus impitoyables. Entrez, et pour 10 sous, vous entendrez des sanglots tels que l'Odéon n'en ouit jamais en ses beaux jours. C'est qu'elle comprend l'inanité, la folie, le ridicule de sa passion. Elle s'avoue qu'elle s'acharne à la poursuite d'un fantôme. Elle sait trop que lui, radieux de jeunesse, ne peut l'aimer, elle, déjà vieille, cherchant en vain à retenir les restes d'une beauté flétrie. Elle sent que si parfois il murmure à son oreille d'amoureuses paroles, il ment. Elle devine qu'un jour ou l'autre, son manteau lui restera dans la main. Et tout en débitant avec une volubilité extrême ce boniment, adressé en apparence au groupe qui l'entourait, le paillasse ne quittait pas des yeux la femme du banquier. Mais rien de ce qu'il avait dit n'avait semblé l'atteindre. À demi renversée sur son fauteuil, elle restait calme. Son œil gardait sa clarté, même elle souriait doucement. « Ah, ça !» pensait le paillasse un peu inquiet. « Aurais-je fait fausse route ?» Si préoccupé qu'il fut, il aperçut cependant un nouvel auditeur, le doge, M. de Clamoran, qui lui aussi venait faire cercle. « Au troisième tableau, continuait-il en faisant rouler les airs, la vieille mandarine a donné congé à ses remords qui sont des locataires gênants. Elle s'est dit qu'à défaut d'amour, l'intérêt fixerait près d'elle le trop séduisant Rouanceau. Et c'est dans ce but que, l'ayant affublé d'une fausse dignité, elle le présente chez les principaux mandarins de la capitale du Fils du Ciel. Et puis comme il faut qu'un joli garçon fasse figure, elle se dépouille à son profit de tout ce qu'elle possède, bracelets, bagues, colliers, perles et diamants, tout y passe. Et c'est aux maisons de prêt de la rue Tianxi que le monstre porte tous ses joyaux, et il refuse par-dessus le marché d'en rendre les reconnaissances. Le paillasse avait lieu d'en être satisfait. Depuis un instant déjà, Madame Fauvel donnait des signes bien manifestes pour lui de malaise et d'agitation. Une fois, elle avait essayé de se lever, de s'éloigner, mais ses forces la trahissant, elle restait clouée à son fauteuil, forcée d'entendre. « Cependant, mesdames et messieurs, continuait le paillasse, les plus riches écrins s'épuisent. Un jour vint où la mandarine n'eut plus rien à donner. C'est alors que le jeune bandit conçut le fallacieux projet de s'emparer du bouton de jaspe du mandarin Lifo, ce splendide bijou d'une valeur incalculable, un signe de sa dignité, déposé dans une cachette de granit gardée nuit et jour par 3 soldats. Ah, la mandarine résista longtemps. Elle savait qu'on accuserait certainement les soldats innocents et qu'ils seraient mis en croix, comme c'est la mode à Pékin, et cette pensée la gênait. Mais l'autre parla d'une voix si tendre que, ma foi, vous comprenez, le bouton de jaspe fut enlevé. Du 4e tableau vous représente les 2 coupables descendant à pas de loup l'escalier dérobé. Voyez leur transe, voyez! Il s'interrompit. 3 ou 4 de ses auditeurs avaient vu que Madame Fauvel était près de se trouver mal, et ils s'empressaient pour lui porter secours. D'ailleurs, on lui serrait énergiquement le bras. Il se retourna vivement et se trouva en face de Monsieur de Clamerand et de Raoul de Lagor, aussi pâles, aussi menaçants l'un que l'autre. « Vous désirez, messieurs ?» demanda-t-il de son air le plus gracieux. « Vous parlez, » répondirent-ils ensemble. « À vos ordres ?» Et il essuie de l'autre côté de la galerie, dans l'embrasure d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon. Là, nul ne devait songer à les observer, et personne ne les observait en effet, sauf ce personnage en manteau vénitien que le paillasse avait salué si bas en l'appelant « Monsieur le Comte ». D'ailleurs, le menuet venait de finir, les orchestres prenaient une demi-heure de repos, la foule affluait dans la galerie, devenue en un moment trop étroite. Même le soudain malaise de Madame Fauvel avait passé absolument inaperçu. Ceux qui l'avaient remarqué, le voyant aussitôt dissipé, l'avait mis sur le compte de la chaleur. M. Fauvel avait bien été prévenu. Il était accouru, mais ayant trouvé sa femme causant tranquillement avec Madeleine, il était allé reprendre sa partie. Moins maître de soi que Raoul, M. de Clamerand avait pris la parole. « Tout d'abord, monsieur, commença-t-il d'un ton rude, j'aime à savoir à qui je m'adresse. » Mais le paillasse s'était bien promis de s'obstiner à croire à une plaisanterie de bal travesti, tant qu'on ne lui mettrait pas les points sur les i. Et c'est dans l'esprit et le ton de son costume qu'il répondit « Ah, ce sont mes papiers que vous me demandez, seigneur d'Auge. Et vous, mon mignon ? Bon, j'en ai des papiers, mais ils sont entre les mains des autorités de cette cité. » Avec mes noms, prénoms, âge, profession, domicile et signes particuliers. » D'un geste furibond, M. de Clamerand l'arrêta. « Vous venez, dit-il, de vous permettre la plus infâme des perfidies. Moi, seigneur Doge? Vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette abominable histoire que vous débitiez? Abominable, oh, cela vous plaît à dire, mais moi qui l'ai composé. Assez, monsieur, assez. Ayez au moins le courage de vos actes. Et avouez que ce n'est qu'une longue et misérable insinuation à l'adresse de madame Fauvel. Le paillasse, la tête renversée comme s'il eût demandé des idées au plafond, écoutait, la bouche béante, de l'air ahuri d'un homme qui moralement tombe des nues. Qui l'eût connu, il est vrai, eût vu dans son œil noir pétiller une satisfaction d'une diabolique malice. Par exemple, disait-il, semblant bien moins répondre que se parler à soi-même, par exemple, en voilà qui est fort. Où se trouve dans mon drame de la mandarine Lifo une allusion, madame Fauvel, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam? Bon, j'ai beau chercher, fouiller, scruter. D'honneur, je ne vois pas. À moins que. Oh, mais non, c'est impossible. Prétendrez-vous donc, interrompit M. de Clamerand, soutiendrez-vous donc que vous ignorez le malheur qui vient de frapper M. Fauvel? Mais le paillasse était bien décidé à laisser préciser les faits. Un malheur? Interrogea-t-il. Mais je veux parler, monsieur, du vol dont M. Fauvel a été victime et qui a fait assez de bruit, ce me semble. Ah oui, je sais. Son caissier a décampé en lui emportant 350 000 francs. Pardieu, oh, l'Occident est vulgaire, je dirais presque quotidien. Quant à découvrir entre ce vol et mon récit le moindre rapport, c'est une autre affaire. M. de Clamerand tardait à répondre. Un violent coup de coude de la gorge l'avait calmé comme par enchantement. Devenu plus froid que marbre, il toisait le paillasse d'un regard soupçonneux et paraissait regretter amèrement les paroles significatives arrachées à son emportement. « Soit, fit-il de ce ton hautain qui lui était familier, soit, oui, j'ai pu me tromper. Après vos explications, je veux bien l'admettre et le croire. Mais voilà que le paillasse, si niaisement humble l'instant d'avant, sur ce mot « explication » se rebiffa. Il se campa fièrement, le poing sur la hanche, exagérant l'attitude du défi. « Mais je ne vous ai donné, je n'avais à vous donner aucune explication. Monsieur, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si sans le vouloir j'ai blessé en quelque chose la femme d'un homme que j'estime, c'est à lui, ce me semble, seul juge et arbitre de ce qui intéresse son honneur, de me le faire savoir. Il n'est plus d'un âge, me direz-vous, à venir demander raison d'une offense. C'est possible. Mais il a des fils, et l'un d'eux est ici, je viens de le voir. Vous m'avez demandé qui je suis. À mon tour, je vous dirai. Qui êtes-vous, vous, qui de votre autorité privée vous constituez le champion de madame Fauvel? Êtes-vous son parent, son ami, son allié? De quel droit l'insultez-vous en prétendant découvrir une allusion où il n'y a qu'une histoire inventée à plaisir? Il n'y avait rien à dire à cette réponse si ferme et si logique. M. de Clamerand chercha un biais. « Je suis l'ami de M. Fauvel, dit-il, et à ce titre, j'ai le droit d'être jaloux de sa considération comme de la mienne propre. Et si cette maison ne vous suffit pas, sachez qu'avant peu, sa famille sera la mienne. Ah ? Oui, c'est ainsi, monsieur. Et avant 8 jours, mon mariage avec Mademoiselle Madeleine sera officiellement annoncé. » La nouvelle était à ce point imprévue, elle était si bizarre, qu'un moment, le paillasse resta absolument décontenancé, et pour tout bon, cette fois. Mais ce fut l'affaire d'une seconde. Il s'inclina bien bas, avec un sourire juste assez ironique pour qu'on ne pût le relever, en disant « Oh, mais recevez toutes mes félicitations, monsieur. Outre qu'elle est ce soir la reine du bal, Mademoiselle Madeleine a, dit-on, un 500 000 de dot. » C'est avec une impatience visible et en jetant de tous côtés des regards anxieux que Raoul de Lagore avait écouté cette discussion. « En voici trop, » fit-il d'un ton bref et dédaigneux. « Je ne vous dirai, moi, qu'une chose, maître Paillas. Vous avez la langue trop longue. » « Peut-être, mon joli mignon, peut-être, mais j'ai le bras plus long encore. » Clameron, lui aussi, avait hâte d'en finir. « Assez, » ajouta-t-il en frappant du pied, « on n'a pas d'explication avec un homme qui cache sa personnalité sous les oripeaux de son costume. Libre à vous, seigneur Doge, d'aller demander qui je suis au maître de la maison, si vous l'osez. » Vous êtes, s'écria Camelan, vous êtes. Un geste rapide de Raoul l'arrêta sur ses lèvres du noble maître de forge, une injure qu'il allait peut-être amener des voix de fête, et à tout le moins une provocation, du scandale, du bruit. Le paillard s'attendit un moment, un sourire gouailleur aux lèvres, et l'injure ne venant pas, il chercha des yeux, les yeux de M. de Clameron, et lentement prononça: « Je suis, monsieur, le meilleur ami qu'ait eu de son vivant votre frère Gaston. J'étais son conseiller, j'ai été le confident de ses dernières espérances. » Ces simples mots tombèrent comme autant de coups de massue sur la tête de Clameron. Il pâlit affreusement et recula d'un pas, les mains en avant, comme si là, au milieu de ce bal, il eût vu devant lui se dresser un spectre. Il voulut répondre, protester, dire quelque chose. L'épouvante glaça les mots dans sa gorge. « Allons, viens, » lui dit Lagore, qui avait gardé son sang-froid. Et il l'entraîna en le soutenant, car il chancelait comme un homme ivre, il se tenait au mur. « Oh !» fit le paillasse sur trois tons différents. « Oh, oh, oh !» C'est qu'il était presque aussi étourdi que le maître de forge, et il restait là, dans son embrasure, planté sur ses jambes. Cette phrase mystérieusement menaçante, c'est à tout hasard qu'il l'avait prononcée, sans but, sans intention arrêtée, uniquement pour ne pas rester court, guidé à son insu par cet instinct merveilleux du policier, qui est sa force comme le flair du limier. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? » murmurait-il. « Mais pourquoi l'effroi de ce misérable ? Quel souvenir terrible ai-je remué dans son âme de boue ? Convient donc encore vanter la pénétration de mon esprit, la subtilité de mes combinaisons ? Il est un maître qui, sans peine, nous dame le pion à tous, qui d'un brusque caprice dérange toutes nos chimères. Ce maître, c'est le hasard. » Il était à 100 lieues de la situation présente de la galerie du bal de Messieurs Jean Didier. Un léger coup, frappé sur son épaule par le personnage au manteau vénitien, le rappela brusquement à la réalité. « Êtes-vous content, Monsieur Verduret ? » demanda-t-il. « Oh, oui et non, Monsieur le Comte. Non, parce que je n'ai pas atteint complètement le but que je me proposais quand je vous ai prié de me faire admettre ici. Et oui, parce que nos deux coquins se sont livrés de telle façon que le doute n'est plus possible. Et vous vous plaignez ? Je ne me plains pas, monsieur le comte. Je bénis au contraire le hasard, je devrais dire la providence, qui vient de me révéler l'existence d'un secret dont je ne me doutais pas. » 5 ou 6 invités, qui, ayant aperçu le comte, s'approchaient de lui, interrompirent cette conversation. Le comte s'éloigna, mais non sans adresser au paillasse un salut plus amical encore que protecteur. Lui, aussitôt, déposant sa bannière, se lança dans la foule venue si pressée qu'on ne circulait qu'avec les plus grandes difficultés. Il cherchait Madame Fauvel. Elle avait quitté la galerie et il la trouva établie sur une banquette du grand salon, causant avec Madeleine. Elles étaient l'une et l'autre fort animées. Bon, pensa le paillasse, elles s'entretiennent de la scène. Mais que sont donc devenus Lagore et Clamoran? Il ne tarda pas à les apercevoir. Ils allaient et venaient, traversant les groupes, saluant, adressant la parole à une foule de personnes. « Je parierais, » murmura le paillasse, « qu'il est question de moi. Ces honorables messieurs cherchent à savoir qui je suis. Cherchez, mes bons amis, cherchez. » Bientôt, ils y renoncèrent. Ils étaient si préoccupés, ils éprouvaient un tel besoin de se trouver seuls pour réfléchir et délibérer, que sans attendre le souper, ils allèrent prendre congé de Madame Fauvel et de sa nièce, annonçant qu'ils se retiraient. Ils disaient vrai. Le paillasse les vit gagner le vestiaire, prendre leur manteau, descendre le grand escalier et disparaître sous le porche. « Eh bien, tout est dit pour ce soir, » murmura-t-il, « je n'ai plus rien à faire ici. » Et à son tour, il sortit, après avoir passé un immense pardessus qui cachait presque entièrement son costume. Il y avait à la porte bien des voitures libres, mais le temps était beau, bien que froid. Le pavé était sec. Le paillasse décida qu'il rentrerait à pied, se disant que le grand air, le mouvement, la marche, tasseraient ses idées encore confuses. Allumant un cigare, il remonta la rue Saint-Lazare et tourna Notre-Dame-de-Lorette pour gagner le faubourg Montmartre. Tout à coup, au moment où il s'engageait dans la rue Olivier, un homme, sortant de l'ombre où il se tenait caché, bondit jusqu'à lui, le bras levé, de toutes ses forces le frappa. Le paillasse, heureusement pour lui, avait cet instinct merveilleux du chat qui se dédouble, pour ainsi dire, qui peut tout à la fois guetter et veiller à sa sûreté, regarder d'un côté et voir de l'autre. Il vit, ou plutôt il devina, l'homme tapis dans l'ombre, et le sentit en quelque sorte se précipiter sur lui, et il put se renverser à demi sur ses jarrets robustes en essayant de parer avec ses mains. Ce mouvement lui sauva certainement la vie, et c'est dans le bras qu'il reçut le furieux coup de poignard qui devait le tuer. La colère, encore plus que la douleur, lui arracha une exclamation. « Ah, canaille ! » s'écria-t-il. Et aussitôt, bondissant d'un mètre en arrière, il tomba en garde. Mais la précaution était inutile. Voyant son coup manqué, l'assassin ne revint pas à la charge. Il poursuivit sa course et bientôt disparut dans le faubourg Montmartre. « C'est Lagore, certainement, » murmurait le paillasse. « Oui, le Clamoran ne doit pas être loin. Pendant que je tournais l'église d'un côté, ils l'ont tourné de l'autre et sont venus m'attendre ici. » Sa blessure, cependant, le faisait cruellement souffrir. Il alla se placer sous un réverbère pour l'examiner. Elle ne présentait sans doute aucune gravité, mais elle était fort large et le bras était traversé de part en part. Il déchira aussitôt son mouchoir de poche, en fit quatre bandes et s'entortilla le bras avec la dextérité d'un interne des hôpitaux. « Il faut, pensait-il, que je sois sur la piste de choses bien graves pour que ces misérables se soient résolus à un meurtre. Des gens habiles comme eux, quand ils n'ont à redouter que la police correctionnelle, ne risquent pas bénévolement la cour d'assises. Cependant, rester là, sur cette place, n'était pas possible. Il s'assura qu'à la condition de braver une douleur très vive, il pouvait encore se servir de son bras, et il poursuivit son ennemi, ayant bien soin de tenir le milieu de la chaussée et évitant les coins sombres. Il ne voyait personne, à la vérité, mais il était persuadé qu'on le suivait. Il ne se trompait pas. Lorsque, arrivé au boulevard Montmartre, il traversa la chaussée, il distingua deux ombres qu'il reconnut et qui la traversèrent presque en même temps que lui, un peu plus haut. « J'ai affaire, murmura-t-il à des gredins déterminés. Ils ne se cachent même pas pour me suivre. Ils sont fins. Ils doivent avoir été rompus à des aventures comme celle-ci. J'aurais du mal à leur faire perdre ma piste. Oh, c'est pas avec ces gaillards-là que réussirait le tour de la voiture, qui a si bien mis Fanferlo dedans. Ben, il faut ajouter de plus que mon diable de chapeau gris est comme un phare dans la nuit et se voit d'une lieue. » Il remontait alors le boulevard et, sans avoir besoin de détourner la tête, il devinait ses ennemis à 30 pas à peu près en arrière. « Et cependant, disait-il, poursuivant à demi-voix son monologue, il faut à tout prix que je les dépiste. Je ne puis rentrer, les ayant vus sur mes talons, ni chez moi, ni au grand archange. Ce n'est plus pour m'assassiner qu'ils me suivent maintenant, mais c'est pour savoir qui je suis. Or, s'ils viennent à se douter que ce paillasse recouvre M. Verduret et que M. Verduret lui-même dissimule M. Lecoq, c'en est fait de mes projets. Ils s'envoleront à l'étranger, car ce n'est pas l'argent qui leur manque, et j'en serai pour mes frais et pour mon coup de couteau. » Cette idée que peut-être Raoul et Clamant lui échapperaient l'exaspéra si fort qu'à l'instant il songea à les faire prendre. C'était chose facile en somme, il n'avait qu'à se précipiter sur eux en criant « au secours », on viendrait, on les arrêterait tous les trois et on les consignerait au poste à la disposition du commissaire de police. C'est ce moyen aussi simple qu'ingénieux qu'emploient les agents du service de la sûreté lorsque, rencontrant à l'improviste quelques malfaiteurs qui leur est signalé, ils ne peuvent, faute d'un mandat, lui mettre la main dessus. Le lendemain, on s'explique. Or, le paillasse avait en main bien assez de preuves pour faire maintenir l'arrestation de Lagor. Il pouvait montrer la lettre et le paroissien mutilé. Il pouvait révéler l'existence des reconnaissants du Mont-de-Piété, déposés au Vésinet. Il montrerait son bras. Au pis-aller, Raoul aurait à expliquer pourquoi et comment il avait volé ce nom de Lagor et dans quel but il se faisait passer pour le parent de M. Fauvel. D'un autre côté, en agissant avec cette précipitation, on assurait peut-être le salut du principal coupable, de M. Le Clameron. Quel témoignage décisif s'élevait contre lui ? Aucun. On avait les présomptions les plus fortes, mais pas un fait. Tout bien réfléchi, le paillasse décida qu'il agirait seul, comme il avait toujours fait jusqu'ici, et que seul il arriverait à la découverte des vérités soupçonnées. Ce parti arrêté, il n'avait plus qu'à donner le change à ceux qui le suivaient. Il avait pris le boulevard de Sébastopol, et quittant l'allure indécise qui trahissait ses hésitations, il se mit à marcher d'un bon pas. Arrivé devant le square des arts et métiers, il s'arrêta brusquement. Deux sergents de ville le croisèrent, il les arrêta pour leur demander quelques renseignements insignifiants. Cette manœuvre eut le résultat qu'il prévoyait. Raoul et Clamant se tinrent quoi à 20 pas environ, n'osant avancer. 20 pas, mais c'était tout ce qu'il fallait d'avance au paillasse. Tout en causant avec les sergents de ville, il avait sonné à la maison devant laquelle il se trouvait. Le bruit sec du cordon lui ayant appris que la porte était ouverte, il salua et entra vivement. Une minute plus tard, les sergents de ville s'étant éloignés, Clamorant et Lagor sonnaient à leur tour à cette porte. On leur ouvrit, et ils firent lever le concierge pour lui demander quel était cet individu qui venait de rentrer déguisé en paillasse. « Il n'avait pas vu, leur dit-il, rentrer le moindre masque, et qui plus est, il n'était pas à sa connaissance » qu'aucun de ses locataires fût sorti déguisé. D'après cela, ajouta-t-il, je ne pus pas être sûr de rien, la maison ayant une autre issue, sur la rue Saint-Denis. Ah, nous sommes volés, interrompit Lagarde. Nous ne saurons jamais qui est ce paillasse. À moins que nous ne l'apprenions trop tôt à nos dépens, murmura Clamerand, devenu pensif. En ce moment même où Raoul et le maître de forge se retiraient pleins d'inquiétude, le paillasse, rapide comme une flèche, arrivait à l'hôtel du Grand Archange comme 3 heures sonnaient. Accoudé à sa fenêtre, Prosper le vit venir de loin. C'est que depuis minuit, Prosper attendait avec la fiévreuse impatience d'un accusé qui attend la décision de ses juges. C'est dire avec quel empressement il courut au-devant de M. Verduret jusqu'au milieu de l'escalier. « Mais que savez-vous » disait-il. « Qu'avez-vous appris? Avez-vous vu Madeleine? Raoul et Clamerand étaient-ils au bal ?» Mais M. Verduret n'a pas l'habitude de causer dans les endroits où l'on peut l'entendre. « Avant tout, répondit-il, entrons chez vous. Et commencez par me donner un peu d'eau pour laver ce bobo qui me cuit comme le feu. Mais si elle vous êtes blessé, oh, c'est tout un souvenir de votre ami Raoul. Oh, il apprendra ce qu'il en coûte pour entamer la peau que voilà. » La colère froide de M. Verduret paillasse avait quelque chose de si menaçant que Prosper en restait interdit. Lui, cependant, avait fini de panser son bras. « Maintenant, dit-il à Prosper, causons. Nos ennemis sont prévenus. Il s'agit de les frapper avec la rapidité de la foudre. » M. Verduret s'exprimait d'un ton bref et impérieux que Prosper ne lui connaissait pas. « Je me suis trompé, disait-il. J'ai fait fausse route. C'est un accident qui arrive au plus malin. J'ai pris les faits pour la cause, il faut bien que je le confesse. Le jour où j'ai cru être assuré que des relations coupables existaient entre Raoul et Madame Fauvel, j'ai cru tenir le bout du fil qui devait nous conduire à la vérité. Mais j'aurais dû me méfier, c'était trop simple, trop naturel. » Alors supposez-vous Madame Fauvel innocente? Non, certes, mais elle n'est pas coupable dans le sens que je croyais. Quelles étaient mes suppositions? Je m'étais dit, éprise d'un jeune et séduisant aventurier, Madame Fauvel lui a fait cadeau du nom d'un de ses parents et l'a présenté à son mari comme son neveu. Le stratagème était adroit pour ouvrir à l'adultère les portes de la maison. Elle a commencé par lui donner tout l'argent dont elle pouvait disposer. Plus tard, elle lui a confié ses bijoux qu'il portait au Mont-de-Piété. Enfin, ne possédant plus rien, elle l'a laissé puiser à la caisse de son mari. Voilà ce que je pensais. Oui, et de cette façon, tout s'expliquait. Non, tout ne s'expliquait pas. Je le savais. Et c'est en cela que j'ai agi avec une déplorable légèreté. Comment, avec mon premier système, expliquer l'empire de Clamerand? Clamerand est simplement le complice de Lagarde. Ah, voilà où est l'erreur. Moi aussi j'ai cru longtemps que Raoul était tout, et la vérité est qu'il n'est rien. Hier, dans une discussion qui s'était élevée entre eux, le maître de forge a dit à son ancien ami: et surtout, mon petit, ne t'avise pas de me résister, je te briserai comme verre. Tout est là. Le fantastique Lagarde est, non la créature de Madame Fauvel, mais l'âme damnée de Clamerand. Et encore, reprit-il, est-ce que nos suppositions premières nous donnaient la raison de l'obéissance résignée de Madeleine? C'est à Clamerand et non à Lagarde qu'obéit Madeleine. Prosper essaya de protester. M. Verduret haussa imperceptiblement les épaules. Pour convaincre Prosper, il n'avait à prononcer qu'un mot. Il avait simplement à dire que 3 heures auparavant, Clamerand lui avait annoncé son mariage avec Madeleine. Ce mot, il commit la faute de ne le point prononcer. Persuadé qu'il arriverait à temps pour rompre ce mariage, il ne voulait pas ajouter cette inquiétude aux soucis de son jeune protégé. Clamerand, poursuivit-il, Clamerand seul tient Madame Fauvel. Or comment la tient-il? Quelle arme terrible assure son mystérieux pouvoir? Il résulte de renseignements positifs qui se sont vus il y a 15 mois pour la première fois depuis leur jeunesse, et la réputation de Madame Fauvel a toujours été au-dessus de la médisance. C'est donc dans le passé qu'il faut chercher le secret de cette domination d'une part et de cette résignation de l'autre. Alors nous ne saurons rien, murmura Prosper. Nous saurons tout au contraire quand nous connaîtrons le passé de Clamerand. Ah, quand ce soir j'ai prononcé le nom de son frère Gaston, Clamerand a pâli et reculé comme à la vue d'un fantôme. Et moi, je me suis souvenu que Gaston est mort subitement lors d'une visite de son frère. Croyez-vous donc à un meurtre? Oh, je puis tout croire de gens qui ont voulu m'assassiner. Le vol, mon cher enfant, n'est plus en ce moment qu'un détail secondaire. Il est aisé à expliquer ce vol. Et si ce n'était que cela, je vous dirais, ma tâche est finie, allons trouver le juge d'instruction et lui demander un mandat. Prosper s'était levé, la poitrine gonflée, l'œil brillant d'espoir. Oh, vous savez, alors est-ce possible? Oui, oui, je sais qui a donné la clé, et je sais qui a donné le mot. La clé, peut-être, c'était celle de M. Fauvel, mais le mot. Le mot, malheureux, mais c'est vous qui l'avez livré. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Votre maîtresse, heureusement, a eu de la mémoire pour deux. Vous souvient-il d'avoir, 2 jours avant le vol, soupé avec Madame Gypsy, Lagor et 2 autres de vos amis? Nina était triste, et vers la fin du souper, elle vous fit une querelle de femme délaissée. Oui, en effet, j'ai ce souvenir bien présent. Alors, vous savez ce que vous avez répondu? Prosper chercha un moment et répondit, non. Eh bien, pauvre imprudent, vous avez dit à Nina, tu as bien tort de me reprocher de ne pas penser à toi, car à cette heure, c'est ton nom aimé qui garde la caisse de mon patron. Prosper eut un geste fou. La vérité comme un obus éclatait dans son cerveau. Oh « Oui !» s'écria-t-il. « Mais oui, je me souviens !»« Alors, vous comprenez le reste? Un des deux est allé trouver Madame Fauvel et l'a contrainte de lui remettre la clé de son mari. À tout hasard, le misérable a placé les boutons mobiles sur le nom de Gypsy. Et les 350 000 francs ont été pris. Et sachez bien que Madame Fauvel n'obéit qu'à des menaces terribles. Elle était mourante le lendemain du vol, la pauvre femme. Et c'est elle qui, au risque de se perdre, vous a envoyé 10 000 francs. Mais qui a volé? Est-ce Raoul? Est-ce Clamerand? Quels sont sur Madame Fauvel leurs moyens d'action? Mais comment Madeleine était-elle mêlée à ces infamies? À ces questions, mon cher Prosper, je ne sais encore que répondre et c'est pour cela que nous n'allons pas encore trouver le juge. Je vous demande 10 jours. Si dans 10 jours je n'ai rien surpris, je reviendrai et nous irons conter à M. Patrigent ce que nous savons. Comment vous partez donc? Oui, dans 1 heure, je serai sur la route de Beaucaire. N'est-ce pas des environs que sont Clamerand et Madame Fauvel, qui est une demoiselle de la Verberie? Oui, oui, je connais leur famille. Eh bien, c'est là que je vais les étudier. Ni Raoul ni Clamerand ne nous échapperont. La police les surveille. Mais vous, Prosper, mon ami, soyez prudent. Jurez-moi de rester prisonnier ici tant que durera mon absence. » Tout ce que demandait M. Verduret, Prosper le jura du meilleur cœur. Mais il ne pouvait le laisser s'éloigner ainsi. « Mais ne serais-je donc pas, monsieur, demanda-t-il, qui vous êtes? Quel réseau m'ont valu votre tout-puissant appui ?» L'homme extraordinaire eut un sourire triste. « Je vous le dirai, répondit-il, devant Nina, la veille du jour où vous épouserez Madeleine. » C'est une fois abandonné à ses réflexions que Prosper comprit vraiment et réellement de quelle utilité lui avait été l'intervention toute puissante de M. Verduret. Examinant le champ des investigations de ce mystérieux protecteur, il était surpris et comme épouvanté de son étendue. Que de découvertes en moins de 8 jours, et avec quelle précision, bien qu'il prétendît avoir fait fausse route, avec quelle sûreté il en était venu d'inductions en déductions, de faits prouvés en faits probables, à reconstituer, sinon la vérité, au moins une histoire si vraisemblable qu'elle semblait indiscutable. Prosper devait bien s'avouer que, parti de rien, jamais il ne serait arrivé seul à ce résultat qui confondait sa raison. Outre qu'il n'avait ni la pénétration surprenante, ni la subtilité de conception de M. Verduret, il n'avait ni son flair, ni son audace. Il ne possédait pas cet art, cette science de se faire obéir, de se créer des agents et des complices, de faire concourir à un résultat commun les événements aussi bien que les hommes. N'ayant plus près de lui cet ami de l'adversité, il le regrettait. Il regrettait cette voix, tantôt rude et tantôt bienveillante, qui l'encourageait ou le consolait. Il se trouvait maintenant isolé jusqu'à l'effroi, n'osant pour ainsi dire ni agir ni penser seul, plus timide que l'enfant abandonné par sa bonne. Au moins eut-il le bon esprit de suivre les recommandations de son mentor. Il se renferma obstinément au grand archange, ne mettant même pas le nez à la fenêtre. 2 fois, il eut des nouvelles de M. Verduret. La première fois, il reçut une lettre où cet ami lui disait avoir vu son père, lequel lui avait donné un bon coup de main. La seconde fois, Dubois, le valet de chambre de M. de Clavran, vint de la part de celui qu'il appelait son patron, annoncer que tout allait bien. Tout allait pour le mieux, en effet, lorsque le 9e jour de la réclusion volontaire, sur les 10 heures du soir, Prosper eut l'idée de sortir. Il avait un violent mal de tête depuis plusieurs nuits, il dormait mal, il pensa que le grand air lui ferait du bien. Madame Alexandre, qui semblait avoir été mise quelque peu dans le secret par Verduret, lui présenta certaines objections où il n'en tient pas compte. « Bon, qu'est-ce que je risque à cette heure dans ce quartier ? » dit-il. « Je longerai le quai jusqu'au jardin des plantes et certes, je ne rencontrerai personne. » Le malheur est qu'il ne suivit pas strictement ce programme et qu'arrivé près de la gare du chemin de fer d'Orléans, ayant soif, il entra dans un café et se fit servir un verre de bière. Tout en buvant à petits coups, machinalement, il prit un journal parisien, Le Soleil, et à l'article « Bruit du jour », sous la signature de Jacques Durand, il lut. « On annonce le mariage de la nièce d'un de nos plus honorables financiers, M. André Fauvel, avec un gentilhomme provençal, M. le marquis Louis de Clamoran. » La foudre tombant sur la table même de Prosper ne lui eut point causé une si épouvantable impression. Cette nouvelle affreuse qui lui arrivait là, à l'improviste, apportée par ce messager indifférent de la joie ou de la douleur qui s'appelle le journal, lui prouvait la justesse des appréciations de M. Verduret. Hélas, pourquoi cette certitude ne lui donne-t-elle pas la foi absolue, c'est-à-dire le courage d'attendre, la force de ne pas agir? Égaré par la douleur, perdant la tête, il vit déjà Madeleine indissolublement liée à ce misérable. Il se dit que M. Verduret arriverait peut-être trop tard et qu'à tout prix il fallait créer un obstacle. Il demanda au garçon une plume et du papier, et oubliant qu'il n'est pas de situation qui excuse cette lâcheté abominable qui s'appelle une lettre anonyme, déguisant son écriture de son mieux, il écrivit à son ancien patron. « Cher monsieur, vous avez livré à la justice votre caissier. Vous avez bien fait puisque vous êtes certain qu'il a été infidèle. Mais si c'est lui qui a pris à votre caisse 350 000 francs, est-ce aussi lui qui a volé les diamants de Madame Fauvel pour les porter au Mont-de-Piété où ils sont actuellement ? À votre place, prévenu comme vous l'êtes, je ne ferai pas d'esclandre. Je surveillerai ma femme et je découvrirai qu'il faut toujours se défier des petits cousins. De plus, avant de signer le contrat de Mademoiselle Madeleine, je passerai à la préfecture de police m'édifier sur le compte du noble marquis de Clamoran, un de vos amis. Sa lettre écrite, Prosper se hâta de payer et de sortir. Puis, comme s'il eût craint que sa dénonciation n'arrivât pas à ses attentes, il se fit indiquer un grand bureau et c'est rue du cardinal Lemoine qui la jeta à la poste. Jusque-là, il n'avait même pas douté de la légitimité de son action. Mais au dernier moment, lorsque, ayant avancé la main dans la boîte, il lâcha la lettre, lorsqu'il entendit le bruit sourd qu'elle fit en tombant parmi les dépêches, mille scrupules lui vinrent. Oh, n'avait-il pas eu tort d'agir avec cette précipitation ? Cette lettre n'allait-elle pas déranger tous les plans de M. Verduret ? Arrivé à l'hôtel, ses scrupules se changèrent en regrets amers. Joseph Dubois était venu en son absence. Il était venu au reçu d'une dépêche du patron, annonçant que tout était terminé et qu'il arriverait le lendemain soir à 9 h à la gare de Lyon. Prosper eut un moment d'affreux désespoir. Il eût donné tout au monde pour entrer en possession de la lettre anonyme. Et certes, il avait raison de se désoler. À 7 h même, M. Verduret prenait le chemin de fer à Tarascon, ruminant tout un plan pour tirer de ses découvertes le parti le plus avantageux. Car il avait tout découvert. Combinant avec ce qu'il savait déjà le récit d'une ancienne servante de Mademoiselle de la Verberie et les déclarations d'un vieux domestique des Clamoran, utilisant les dépositions des gens du Vésinet au service de l'Agore, dépositions recueillies et expédiées par Dubois Fanferlot, s'aidant de notes émanant de la préfecture de police, il était arrivé, grâce à son prodigieux génie d'investigation et de calcul, à rétablir entièrement et dans ses moindres détails le drame désolant qu'il avait entrevu. Ainsi qu'il l'avait deviné et dit, c'est loin, bien loin dans le passé qu'il fallait rechercher les causes du crime dont Prosper avait été la victime. Et ce drame, le voici, tel qu'il l'avait rédigé à l'intention du juge d'instruction, non sans se dire que, sans doute, son récit servirait à dresser l'acte d'accusation.